Le christianisme est-il donc vraiment monothéiste? La question peut se poser, surtout que vous savez que c'est le reproche, un des reproches fondamentaux que fait l'islam à l'égard des chrétiens, en disant qu'ils ne sont pas monothéistes, probablement en particulier à cause de la question de la Trinité et de Jésus-Christ. Mais c'est aussi la critique que font les témoins de Jéhovah, qui critiquent les chrétiens traditionnels en disant qu'ils sont devenus trithéistes. Je pense que ces critiques sont sans doute dues à une lecture un peu rapide de la théologie chrétienne, certainement à cause de la question de la Trinité, comme je vous l'ai dit, et que la foi essentielle chrétienne, et je pense que tous les chrétiens l'affirment en général, c'est un monothéisme strict. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, et de ce côté-là, les chrétiens reprennent la confession de foi du judaïsme, Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohinu, l'Éternel est notre Dieu, Adonai Erad, l'Éternel est un. Et les chrétiens certainement reprennent ça. Il y a un seul principe, c'est Dieu. Et par conséquent, c'est ce que l'on appelle, ou c'est ce que l'on appelait chez les pères de l'Église, dans l'Antiquité, la monarchie de Dieu. Non pas que Dieu soit royaliste, mais que l'étymologie du mot monarchie, ça vient de monos, un, et arché, principe, pour dire, pour le christianisme, il y a un seul principe actif dans le monde, c'est Dieu, et c'est tout. Et donc cette monarchie de Dieu, qui est, je crois, le fondement de la foi juive et de la foi chrétienne, il est vrai, est sans cesse menacé par, je dirais, par la piété populaire, plus que par les théologiens, par la piété populaire. Et elle est menacée de différentes manières. D'abord, par un certain dualisme. Le dualisme, vous savez, c'est de penser qu'il y a deux principes qui se bagarrent dans le monde, qui sont Dieu et le diable, un Dieu bon et une divinité mauvaise, et que deux principes qui s'opposent et qui font que le monde est un gigantesque champ de bataille. Eh bien, c'est un danger ainsi de personnaliser le diable, et je n'ai pas le temps de trop expliciter, mais je prétends que si on est dans la monarchie divine, le diable n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diable en tant que divinité éternelle qui s'opposerait à Dieu, et certes, il y a du mal dans le monde, mais je crois que le mal est profondément hasardeux, injuste et désorganisé. Le mal, par définition, c'est le désordre, le chaos et l'absurde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un diable malin qui organise d'envoyer un accident ici, une maladie ailleurs ou autre chose. Le diable, c'est l'absurdité, c'est la bêtise, c'est le non-sens, et c'est l'homme parfois qui peut l'organiser, mais il n'y a pas de diable dans le ciel qui organise le mal. C'est une chose essentielle. Alors, cela dit, certains ont voulu quand même, certains chrétiens croient dans le diable, et il ne faut pas que je me montre trop intégriste, je dois accueillir ces frères et sœurs qui croient dans le diable. Et à ce moment-là, ceux qui croient dans l'existence du diable disent « il y a bien un diable, mais le diable n'est pas l'égal de Dieu, il est un sous-produit ». Et donc ils vont ressortir une vieille mythologie juive qui vient du livre des Maccabées, disant que le diable serait un ange déchu, c'est-à-dire une créature spirituelle, donc seconde par rapport à Dieu, qui aurait renié Dieu pour s'y opposer. Bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous dire, je crois que cette histoire d'ange déchu, c'est de la mythologie juive populaire et tardive. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je laisse ça pour la piété populaire de la grande antiquité. Je pense simplement, pour dire simple, parce que je n'ai pas le temps de compliquer, il y a un seul principe spirituel qui est Dieu, bon, unique et éternel, point. L'autre chose qui menace la monarchie divine, donc dans la piété populaire, cette fois pas forcément dans un sens négatif, c'est la multiplication et l'éclatement du spirituel. Ça arrive aussi, c'est-à-dire au lieu de concentrer tout le spirituel en Dieu, on va créer des quantités de créatures spirituelles, des anges, des esprits, des puissances, et aussi du côté négatif, des démons et des choses comme ça. L'islam, de ce côté-là, n'échappe pas à ça. Et l'islam n'est pas aussi monothéiste qu'il le dit. Parce que l'islam croit dans Allah, c'est vrai, mais aussi dans les anges et dans les djinns. C'est-à-dire qu'il y a finalement aussi cette espèce d'éclatement du spirituel qui va se trouver présent sous différentes sortes d'hypostases, de principes spirituels qui seraient ici ou là. La réforme a toujours voulu, à tort ou à raison, hein, je ne veux pas dire, mais moi ça me convient en tout cas, peut-être parce que j'ai été élevé là-dedans, mais la réforme a toujours voulu recentrer le spirituel en Dieu et en Dieu seul. Et c'est pour ça que la réforme a rejeté, je dirais, la piété populaire qui faisait que les croyants priaient non seulement Dieu, mais aussi des tas de gens, Marie, les saints, les défunts, je ne sais qui, et qui enseignait des tas de sortes de présences spirituelles diverses, avec effectivement les anges, les démons, ou les anges gardiens, etc. Et bon, ça peut être une forme de piété populaire, une fois de plus, pourquoi pas, l'être humain a peut-être besoin de visualiser le spirituel, peut-être que l'idée d'un Dieu unique et transcendant est trop difficile à adorer et à croire, mais néanmoins, je maintiens qu'il est essentiel de garder le spirituel en un et de ne pas l'éclater. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des failles dans le spirituel. Je crois que le propre du spirituel et du divin, c'est d'être dans l'unité absolue, justement. Et si je commence à prier tel saint pour qu'il intercède pour moi auprès de Dieu, c'est que je suppose qu'il pourrait y avoir des opinions différentes, si vous voulez, et qu'il y a une sorte, il y en a un qui est gentil, l'autre qui n'est pas très gentil, un qui veut juger, l'autre qui veut pardonner, et ça crée des tensions dans le spirituel, je dirais. Alors que moi, des tensions, j'en ai assez dans le monde. Et si je crois dans un Dieu, je ne veux pas qu'il y ait de tensions en Dieu. J'ai besoin d'un Dieu qui soit un, qui soit unique, qui soit tranquille et qui soit la paix et l'unité. C'est pourquoi je milite justement pour dire que le spirituel, qui est le sens de ma vie, qui est ce vers quoi je tourne mon espérance, que ce spirituel soit simple, tranquille, unique et monarchique. Sinon, ça me pose des problèmes, effectivement, et ce n'est plus la paix, mais autre chose. Et cela permet, je crois, ce principe spirituel unique, d'avancer vers aussi l'unification de mon être. C'est-à-dire, je veux centrer mon être sur un centre unique et pas sur un dipôle qui me tiraille sans arrêt entre le bien et le mal. Et donc, je suis, moi, centré vers un seul principe unique qui est Dieu. Cela dit, il est évident que la menace la plus grave à l'égard du monothéisme strict, c'est la question de la Trinité, qui évidemment est ce qui est visé par l'islam. Cette affirmation que Dieu serait en trois personnes. Alors si on croit dans un Dieu qui est trois personnes, bon ben on a trois personnes, donc on a trois dieux, et puis c'est tout, qu'on le veuille ou non. Et ça évidemment c'est très problématique. Et je comprends la critique des musulmans à cet égard. Cela dit, la question a un certain nombre de solutions. D'abord, il faut comprendre d'où ça vient. C'est des problèmes de traduction, une fois de plus. La doctrine de la Trinité a été développée à partir du 2e-3e siècle et a trouvé son épanouissement au 4e siècle. Et à ce moment-là, on parlait grec. Et on disait « mia ousia que treis hypostasis », c'est-à-dire une essence et trois hypostases. Alors comme hypostase, personne ne sait ce que ça veut dire, ou plutôt si c'est un terme qu'on a récupéré chez les platoniciens ou les néoplatoniciens, qui disaient qu'il y avait l'un unique qui donne l'intelligence et qui donne l'âme, et que chacune est une hypostase, et donc il y avait déjà des sortes de trinités avec des processions, dans la pensée néoplatonicienne qui précédait le christianisme trinitaire. Hypostase a été traduit en latin par persona. Et donc on dit il y a une essence et trois persona. Et du coup en français, trois personnes. Et avec trois personnes, on est dans effectivement le trithéisme. Alors il y a des solutions, vous disais-je, et je ne veux pas... me résoudre à croire que le christianisme serait trithéiste. Plusieurs solutions, vous choisirez laquelle est la vôtre, et si aucune de celles que je vous propose ne vous convient, vous en trouverez encore une autre, il y en a d'autres. La première, qui est la seule que je récuse, c'est ceux qui disent « Oh là là, c'est incompréhensible, mais c'est le mystère de la Trinité. Dieu est trois personnes, mais il est quand même un, et c'est incompréhensible, mais c'est le mystère de la Trinité. » Alors non, moi, vos mystères, vous les gardez. J'aime pas qu'on se fiche de moi. Et s'il y a quelque chose à comprendre, on le comprend. Et s'il y a quelque chose à expliquer, on l'explique. Et donc, je ne m'arrêterai pas à ça, et je veux essayer de savoir ce qu'il en est pour qu'on dise une théologie qui soit, je dirais, audible, intelligible. Et si les gens dans les églises se contentent de dire à leurs fidèles « Cessez de réfléchir, c'est absurde, mais c'est le mystère, il faut le croire » en fermant les yeux, je comprends que nos contemporains partent en courant des églises. Heureusement, j'ai d'autres solutions. Vous plairont peut-être pas, on verra. Première solution, la plus radicale, ça c'est la médecine absolue. Vous allez voir, c'est très simple, de dire « Écoutez, la Trinité, c'est une doctrine tardive. Je vous l'ai dit, 3e-4e siècle. Bon. D'autre part, elle n'est pas biblique. Par conséquent, je peux m'en passer. Parce que moi, ma foi, elle est centrée sur l'Évangile, et nulle part dans l'Évangile, on ne dit que Dieu est trois personnes ou des choses comme ça. Par conséquent, je m'en passe. Et puis voilà, et moi je suis monothéiste et c'est tout. Et votre Trinité, vous la laissez dans les greniers de l'histoire de l'Église. C'est des gens au 4e siècle qui se sont amusés à développer une doctrine. S'il fallait s'encombrer de toutes les doctrines farfelues qui ont été développées dans l'histoire du christianisme, on n'en finirait pas. Donc moi je m'en tiens à la prédication de Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas d'histoire de procession d'hypostase. Et donc laisser tout ça de côté, c'est de la pollution tardive. Rester sur la pureté de l'Évangile. Donc voilà, je suis monothéiste et c'est tout, et la Trinité, je la laisse pour les autres. C'est brutal, je vous l'ai dit. Cela dit, certains chrétiens le font. Hein. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qu'on appelle les unitariens, qui justement professent que Dieu est unique et que la Trinité ne leur convient pas. Et même du temps de Calvin, le débat se faisait, puisque c'est à cause de ça que Calvin, qui aimait bien la Trinité, a laissé ou a fait brûler Michel Servet à Genève, parce qu'il n'était pas assez bien trinitaire comme il faut. Alors bon, écoutez, Calvin a eu tort, tout le monde le dit. Alors si moi je suis un peu servetiste, ne me brûlez pas. Voilà. Et donc je vous l'ai dit, Jésus ne s'est jamais égaré là-dedans. Pour lui, Dieu c'est Dieu, et c'est tout, et Dieu c'est le Père, et c'est tout. Dieu, c'est le Père. Et donc j'assume, oui, finalement, je suis unitarien. Dieu est un, il y a une seule personne en Dieu, et puis voilà, il n'y a pas trois dieux, il y en a un seul, c'est l'un, l'unique incréé, qui est mon Dieu. Sur ce point, les musulmans ont raison, je dirais. Je pense effectivement que la Trinité, mal comprise, est un poison pour la foi. Ça rend les choses irrationnelles et incompréhensibles. Et je déplore cette espèce de fixation que font les chrétiens aujourd'hui sur la Trinité. Je ne comprends pas, pour tout vous dire. Mais c'est une vraie fixation, hein. Si vous cherchez la notice « christianisme » dans Wikipédia, on vous dira « le christianisme croit dans le Dieu trinitaire ». Et donc, d'après Wikipédia, je ne suis pas chrétien. C'est quand même embêtant. Et Jésus non plus, je dirais. Et donc, il faut remettre les choses à leur place. Je crois et j'assume... On peut être chrétien sans être trinitaire. Bon, autre solution un peu moins radicale, si vous êtes peut-être plus subtil que je n'ai tendance à l'être, je vais faire des efforts. Deuxième solution, c'est de dire que la Trinité, c'est en fait une triade. C'est-à-dire, je mets en groupe trois choses qui sont très importantes pour ma foi. C'est-à-dire Dieu qui est Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Voilà. Et là-dedans, j'ai les trois choses essentielles de la religion. J'ai Dieu, j'ai Jésus et j'ai le Saint-Esprit. Et ça, ces trois choses, on les trouve sans cesse, soit ensemble, soit séparément, dans l'Évangile et dans Paul. Paul, souvent, va parler de Dieu, va parler de Jésus et de l'Esprit, mais jamais il ne va dire l'un égale l'autre et l'autre égale l'un avec des processions d'hypostases, je ne sais quoi, mais on trouve ces trois éléments sans arrêt dans la pensée chrétienne et dans le Nouveau Testament. Et donc je dirais que cette Trinité-là, si c'est ça la Trinité, alors ça me convient, oui. je veux bien garder là les trois points essentiels pour moi de ma foi. Dieu est Père, ça c'est fondamental. Jésus-Christ, c'est fondamental, sinon je ne serais pas chrétien. Je ne dis pas ce qu'il est, mais Jésus a une place importante. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire je ne crois pas dans une lettre morte, mais dans une puissance de vie dont je peux être bénéficiaire aujourd'hui. Et ça, c'est important. Donc cette Trinité-là, j'en veux bien. Et puis par ailleurs, elle est commode liturgiquement. On fait des confessions de foi. Alors oui, je crois en Dieu, qu'est ceci, en Jésus-Christ, qu'est cela, dans le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Bon, tout ça, ça tourne bien. Et c'est une belle mise en forme de notre foi. Donc, comme ça, ça va. Troisième solution, c'est de dire que ces noms, que ces trois termes de la Trinité sont des noms et non pas des personnes. Là aussi, je veux bien dire ça. En effet, je peux dire que Dieu est Dieu, mais qu'il se présente à moi de temps en temps comme Père, de temps en temps comme Fils et de temps en temps comme Esprit. C'est-à-dire ce sont des fonctions par rapport à moi et que la même personne n'a pas toujours la même fonction. De même que moi, qui suis une personne unique, je suis Louis pour mes amis, je suis Monsieur le Pasteur pour mes fidèles et je suis Papa pour mes enfants. Et donc j'ai trois fonctions, si vous voulez, mais je suis bien la même personne, il n'y a pas trois personnes différentes. Je suis le même qui est ceci pour l'un ou ceci pour l'autre. Et peut-être que pour la même personne, on peut être parfois plus ceci et parfois plus cela. Si par exemple, je suis amené à faire un service pastoral pour un de mes amis, je ne serai pas simplement un ami, je serai aussi à ce moment-là le pasteur. Bref, on peut avoir différentes fonctions, et on peut dire donc que ces fonctions-là sont en fait des noms, des façons d'apparaître, des façons d'être, en quelque sorte, pour l'homme. Et que par conséquent, ces trois personnes de la Trinité ne sont que trois noms de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que disait un père de l'Église qui s'appelle le pseudo-Aristote, qui dit « Dieu étant un a des noms multiples ». Et ça me convient très bien, ça c'est acceptable. Et ça peut même nous permettre de comprendre cette histoire de Dieu en trois personnes. Parce que, je vous l'ai dit, le drame c'est la traduction. On a traduit « persona » latin par « personne » en français. Or, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai cru en tout cas, que « persona » en latin, ça désigne le masque que portaient les acteurs dans la comédie, si vous voulez. Et donc, effectivement, le même acteur peut porter un masque de ceci ou un masque de cela. C'est-à-dire, il change son apparence, en quelque sorte. Et on peut dire que Dieu se déguise sous des formes différentes, tantôt comme Père, tantôt comme Fils, ou tantôt comme Esprit. Alors, ça me convient. Je veux bien que la Trinité soit ça. Trois apparences du même Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours tendance à identifier les gens à leur rôle. C'est peut-être la tendance naturelle et regrettable de ceux qui veulent personnifier, je dirais, les rôles. Et ça, c'est un danger qui nous menace, nous, dans notre vie, où on s'identifie à son rôle de père ou de mère, on s'identifie à son métier, à son travail ou à d'autres choses, alors qu'on nous dit non, vous n'êtes pas identifié à vos rôles, vous êtes vous-même avant les rôles. Et donc, il faut faire attention, effectivement, à garder dans la Trinité ces personnes, non pas comme des individus, mais comme des rôles. Cela dit, on peut très bien dire que Dieu est esprit. On peut dire que Dieu est Père, ça ne me dérange pas. Que Dieu soit esprit, c'est vrai, l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a pas de corps, donc Dieu, tout son esprit, c'est lui-même, et lui n'est qu'esprit, donc Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit, ça n'est pas un problème. Dire que Dieu soit Père, oui, ça me plaît aussi. Il est à la fois celui qui nous donne la vie, il est celui qui nous aime, celui qui nous éduque. Tous ces rôles parentaux, je dirais, sont certainement des rôles essentiels de Dieu. Ah, maintenant, dire que Dieu est Fils, alors oui, c'est là que se trouve le problème. Dieu est Fils, mais qui c'est ce Fils? Si c'est Jésus, alors tout à coup, cela voudrait dire que Jésus serait Dieu. Et c'est là que se trouve le vrai problème de la Trinité. Parce que Dieu ait des noms, ça ne dérange personne. Je dirais, les chrétiens en donnent 3, les musulmans en donnent 99, donc de ce côté-là, si la Trinité, ce ne sont que des noms de Dieu, les musulmans sont beaucoup plus polythéistes que nous. Nous, on n'en a que 3. Mais si vraiment ce sont des personnes, et si Jésus est Dieu lui-même, alors on a 2 dieux. Il y a un Dieu invisible qui est au ciel et un Dieu visible qui est sur terre. On en a un qui reste au ciel et l'un qui vient ici, et ça devient très compliqué. Et même si vous voulez garder cette histoire de masque, oh là là, alors vous tombez là dans une théologie très douteuse, c'est-à-dire que Jésus ne serait que Dieu déguisé en homme, et c'est-à-dire que l'humanité de Jésus ne serait pas entière, ce serait qu'une sorte d'habillage, que Dieu serait un ectoplasme déguisé en humain, un peu comme dans Harry Potter et tout ça, enfin... Non, ça, c'est pas possible. Là, on tombe dans des choses vraiment pas claires. Alors, Jésus est-il Dieu ? Prenons le sujet à bras-le-corps. Jésus est-il Dieu ? Alors, bonne question. Puisqu'on est à peu près en liberté démocratique et qu'aujourd'hui, on ne brûle pas les hérétiques, je vais vous dire ce que je pense, moi, qui est ce que pensait Michel Servet, qui est que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. On a brûlé Servet à cause de ça. J'espère qu'aujourd'hui, ça ne me vaudra pas trop de problèmes. Mais une fois de plus, comme je suis très tolérant, ça ne me dérange pas que vous pensiez que Jésus soit Dieu. Hein. Je vais juste essayer de vous dire un peu ce qu'il en est. Non, pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne porte ni barbe ni sandales. Voilà. Parce que Dieu, il est au ciel. Et parce que je crois que Dieu ne meurt pas sur une croix. Je crois au contraire que Dieu... Il est invincible, je dirais, que rien ne peut l'abattre, qu'il est plus fort que la mort, plus fort que la haine. Donc non, Dieu n'est pas crucifié. Et Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus dit avant sa mort à Dieu, non pas ma volonté mais la tienne. Donc ça laisse supposer que la volonté de Dieu n'est pas celle de Jésus. Jésus dit à propos de la fin du monde qu'il ne sait pas quand c'est, parce qu'il dit seul le Père le sait, le Fils ne le sait pas. Donc il y a des choses que Jésus ne sait pas et que Dieu sait. Et puis il dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu ne peut pas s'abandonner lui-même. Enfin bref. Donc non, pour l'Évangile, je ne vois pas du tout, Jésus n'est pas Dieu. Jésus appelle Dieu son Père. Donc Jésus, il est Fils de Dieu. Ah oui, ça j'y crois. Jésus est Fils de Dieu. Mais le Fils, ce n'est pas le Père. Moi, j'ai 3 fils, aucun de mes fils ne sont moi-même, jusqu'à présent. Et donc, Fils de Dieu ne veut pas dire égal, au contraire. Alors donc, le Fils, ce n'est pas le Père. Et donc, cette idée que le Père serait égal au Fils, théologiquement, je ne vois pas. Alors, j'ai étudié l'histoire et j'ai trouvé qui est le coupable de cette confusion absolument incroyable. Le coupable s'appelle Tertullien. Tertullien, c'est un père de l'Église qui a vécu au 2e-3e siècle. Et Tertullien a eu une idée qui pollue encore la théologie jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il a appelé fils, attention, c'est compliqué, il a appelé fils, non pas Jésus, mais le Verbe éternel de Dieu. Vous savez, au début de Jean, on dit « au commencement était la parole, et la parole était celle de Dieu, et cette parole était Dieu ». Tout a été fait par elle. Et donc ce Verbe éternel, cette parole créatrice de Dieu, qui est Dieu parce que Dieu est son propre acte créateur, et parce que Dieu il est message, il est information, il est parole, il est création. Et donc Tertullien a appelé fils, non pas Jésus, mais le Verbe éternel de Dieu. Qui certes, ce Verbe éternel de Dieu va se trouver présent en Jésus-Christ. Et donc, pour Tertullien, Jésus-Christ n'est pas le Fils, il est l'incarnation du Fils. C'est-à-dire que pour Tertullien, Jésus-Christ est un homme dans lequel s'est trouvée la plénitude de la parole éternelle de Dieu. Vous me suivez? Et du coup, ça veut dire que pour toute la théologie de la Trinité, eh bien, depuis des siècles, la Trinité n'a jamais voulu dire que Jésus de Nazareth, le Jésus historique, soit Dieu. Ce qu'elle a simplement dit, c'est qu'il y avait en Jésus quelque chose de divin, comme nous tous, mais que ce qui était divin en Jésus-Christ, c'était tellement pleinement divin que c'était pleinement Dieu lui-même. Voyez-vous ? Et donc Jésus... le problème, c'est qu'on a deux systèmes. Pour le Nouveau Testament, fils de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Et pour Tertullien et les Trinitaires, fils de Dieu, ça n'est pas Jésus. C'est ce qu'il y a de divin en Jésus-Christ, c'est-à-dire le Verbe éternel de Dieu. Vous pourrez vérifier, ce que je dis est vrai. Parfois, je dis des bêtises, mais pas là. Ça, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et jusque dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin, il a un premier livre sur Dieu. Là, il parle de Dieu, il parle de la Trinité, du filium, qui est verbum Dei. Il ne parle pas de Jésus à ce moment-là. Deuxième livre, l'homme. Et une fois qu'il a parlé de Dieu et de l'homme, il pourra parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même, il est Dieu uni à l'homme. Jésus-Christ est à la fois homme, pleinement homme, totalement uni au Dieu véritable. Jésus-Christ est un homme plein et entier, avec son âme, son intelligence, sa volonté, sa personnalité, sa liberté, qui incarne la parole éternelle de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est comme ça. Et donc cette Trinité-là, si je fais un peu d'histoire, bon, ben moi, ça ne me dérange pas. À ce moment-là, oui, je suis trinitaire, voilà. Je croyais ne pas l'être, mais vous voyez que on dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Un peu de science m'a éloigné de la Trinité et beaucoup de science m'en a rapproché. Parce que maintenant que j'ai compris ce que voulaient dire ces braves gens en grec au 3e siècle, je me dis que finalement, ce n'était pas tout à fait imbécile. Donc, il n'y a aucun problème trinitaire. Dieu peut se présenter à nous comme un Père qui nous aime. Dieu peut se présenter à nous comme le Verbe éternel et créateur et comme l'Esprit qui donne la vie. Et certainement, Dieu est pleinement Père, Dieu est pleinement parole créatrice et Dieu est pleinement Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Père, et le Père, c'est l'Esprit, et l'Esprit, c'est la parole créatrice. Donc ça, j'ai aucun problème là-dessus. Et Jésus, il nous révèle ce Dieu, Père, parole et Esprit. Donc vous voyez, de ce côté-là, on n'est pas du tout trithéiste, puisque c'est simplement trois fois Dieu, c'est tout, spirituellement. Maintenant, quel est l'intérêt de s'embarrasser d'une doctrine aussi compliquée? Là, je reviendrai peut-être un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, emporté par mon élan, et où j'ai jeté la Trinité aux orties en disant « Écoutez, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas ». Je dis que finalement, le succès même de cette doctrine trinitaire est justifié. Peut-être justement parce qu'elle est compliquée. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que dire que Dieu est trinitaire, c'est peut-être pour dire que Dieu est compliqué et qu'on ne peut pas le réduire à un mot simple ou à une idée simple. Dieu, c'est une réalité complexe qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre langage. Et on ne peut pas dire « j'ai trouvé Dieu, c'est ça ». Dieu, il est Père, et quand j'ai compris que Dieu était Père, je dis « ah ben non, mais il est aussi Esprit ». Ah ok, Dieu est Esprit, ah, mais non, mais il est aussi Parole. Et donc Dieu, il est insaisissable et il dépasse tout ce que l'on peut en dire. Vous savez, comme autrefois dans mes études, en physique, on faisait des courbes, et on faisait, quand on croyait avoir trouvé ou passé la courbe dans une expérience, sagement, on faisait autour un carré d'incertitude, et en disant, je ne sais pas très bien où passe la courbe, ça passe quelque part là-dedans. On ne sait pas où. Eh bien, c'est ça la Trinité. Dieu... Je ne veux pas vous le montrer, je vais vous dire, il est quelque part à l'intérieur d'un triangle, je ne sais pas où, je ne sais pas très bien, mais quelque part là-dedans, et donc d'une façon qu'on ne peut pas absolument définir. Alors vous me direz, pourquoi 3? Pourquoi pas 4, 5, 6, 7, 8 ou 99? Eh bien peut-être parce que 3, c'est le plus petit nombre compliqué, je dirais. Si on avait mis que 2 termes, alors on serait dans la dialectique. Dieu est-il jugement ou Dieu est-il amour? Quelque part entre les deux, donc on a une sorte de curseur. Pour certains, il est plus amour ou plus pardon que jugement. Pour d'autres, il est plus jugement qu'amour. Donc on est dans le curseur. Dès qu'on a 3, on est fichu. On ne peut plus faire de dialectique à 3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer au ping-pong à 3, si vous voulez, ce n'est pas possible. Le 2, c'est la division à l'infini, comme dit Platon. Dès qu'on a 3, les choses sont insolubles, en quelque sorte, insolubles. Et d'ailleurs, il paraît, c'est peut-être aussi dû à notre cerveau, expérience que je fais sans arrêt avec mes enfants, J'ai entendu une fois qu'on ne pouvait pas faire trois choses en même temps. On arrive à en faire deux. C'est-à-dire, j'arrive à composer un numéro de téléphone, je dirais, tout en remuant la soupe. Mais si on me demande de me faire une troisième chose en même temps, je n'y arrive pas. Il paraît que c'est comme ça. Essayez en même temps de faire un numéro de téléphone, de taper le digicode de votre porte et en même temps de vous gratter le mollet gauche avec le pied droit. Vous n'arriverez pas. Parce qu'on n'a que deux demi-cerveaux, paraît-il, enfin bref. Et donc le 3, de toute façon, nous échappe. Et le 3 aussi, c'est comme, si vous prenez un tube triangulaire, vous pouvez toujours voir deux faces. Mais quand je vois deux faces, il y en a une qui est derrière qui m'échappe. Alors je vais tourner, je revois deux faces et une m'échappe. Et donc, dans le 3, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Comme un autre exemple, un tabouret à trois pieds. Je prends deux pieds. Ah, mais il y en a un troisième qui m'échappe. Alors, je prends le troisième, mais du coup, j'en lâche un, l'autre. Et j'ai toujours un pied qui m'échappe. Et donc, c'est ça ce qui est génial dans la Trinité. C'est que, effectivement, il y a toujours un aspect qui nous échappe. Et Dieu reste finalement absolument impossible à enfermer dans quelque chose de simple. Alors ça peut sembler confus, mais ça me plaît parce que Dieu est complexe et que finalement j'aime mieux la confusion que l'intégrisme. Et finalement, si vous ne comprenez plus rien à la fin de mon sermon, c'est que vous êtes sur la voie de la vérité. Si jamais vous dites « Ah ça y est, j'ai tout compris, maintenant c'est clair », là c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on tombe dans une simplification, parce que Dieu n'est jamais clair ou simple, et on tombe aussi dans le danger de l'intégrisme. Et effectivement, un Dieu trop unique, c'est pas que je veuille plaider pour le polythéisme, mais un Dieu trop unique peut basculer de deux côtés. Il y a eu dans l'histoire des gens qui ont milité pour un Dieu qui est identifié à l'un, UN. En particulier, le premier danger, c'est la dérive néoplatonicienne. Les néoplatoniciens ont dit Dieu c'est l'un, mais l'un nous apparaît de mille manières, et donc Dieu en tant qu'un est inconnaissable. Et donc ils ont dit que l'un précède Dieu en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a une idée de Dieu, mais que au-delà de Dieu il y a un un inconnaissable, indicible et impossible à cerner et à comprendre. Il y a un un qui est au-dessus de Dieu, qui précède l'être et dont on ne peut rien dire. C'est ce qu'on a appelé au Moyen-Âge la théologie apophatique, c'est-à-dire qui disait « Dieu est tel qu'on ne peut rien dire de lui, on ne peut qu'en parler négativement, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, mais on ne peut rien dire positivement de Dieu ». Alors, ce courant mystique platonicien a eu une grande postérité par ce qu'on appelait la mystique rhénane et maître Eckhart, et est allé ensuite jusque dans la réforme par Luther, et on le retrouve apparaître avec Karl Barth au XXe siècle, où on dit Dieu est le tout autre, l'inconnaissable, l'absolu qui échappe à tout ce que l'on peut en dire et comprendre. Le danger, c'est que du coup, la théologie risque de s'évaporer, de se dissoudre, et Dieu, il devient tellement abstrait qu'on ne peut rien en dire et qu'on ne peut rien faire qui soit juste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun repère. L'autre danger, c'est dans l'autre sens, c'est le basculement intégriste. C'est-à-dire, si je crois que ce que je dis de Dieu est vraiment Dieu, alors, si j'ai une vision univoque de Dieu, alors il y a un très grand danger. C'est-à-dire, je vais vouloir imposer cette image de Dieu, l'imposer aux autres et dire qu'il y a une vérité, un absolu, qui est mon discours, ma morale, mon dogme, ma doctrine, ma pratique, ma liturgie. Et à ce moment-là, je tombe dans un despotisme spirituel, et qui peut être aussi après moral, et qui peut être aussi politique, d'un point de vue extrêmement grave. Parce qu'au nom de ce Dieu, un, simple, visible, j'ai une grille de lecture que je vais imposer au monde, et tous ceux qui ne rentreront pas dans cette grille seront, à la limite, soit considérés comme hérétiques, soit simplement tués ou exterminés. Donc il y a un grand danger, je dirais, dans le monothéisme strict, et je suis finalement fier d'appartenir à une religion où Dieu est complexe, où Dieu est compliqué. Parce que finalement, la Trinité, ça donne une doctrine complexe. Ça fait de Dieu un Dieu à la fois unique et complexe. Ça, c'est extraordinaire. Unique et complexe. Comment faire ça? Bien finalement, oui, je vais vous dire ce que je rejetais au début. Bien, c'est ça le grand mystère de la foi. Dieu est unique et complexe. À la fois, il est l'un absolu, il est l'un qui rassemble ma vie, il est la source infinie d'harmonie, de paix, de sens, et en même temps, il est complexe, c'est-à-dire qu'il ne simplifie pas les choses, mais croire en Dieu, c'est pas se simplifier la vie, c'est aussi se la compliquer, d'une certaine façon. Et il est complexe parce qu'il n'enferme pas, mais que c'est un Dieu qui ouvre des voies de réflexion, des voies de liberté, des voies d'intelligence, il ouvre des voies aussi de tolérance, et il ouvre finalement, tout simplement, à la vie. Parce que de l'un, la vie ne naît pas. Autrement dit, c'est un Dieu effectivement à la fois unique et complexe, parce que c'est à la fois un Dieu qui me donne une sorte de source unique, essentielle, éternelle de vie et de confiance. Il est le rocher, le pic, ma forteresse. Et Dieu est aussi complexe, c'est-à-dire il est aussi toute cette complexité qui me donne que j'assume ma vie et qu'il m'ouvre à la vie, à l'amour, à l'accueil de l'autre, à la liberté et à la joie. Amen.